affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Vous l'avez certainement remarqué, notre époque est caractérisée par une certaine propension à l'amnésie. En tant qu'individu, mais aussi en tant que société, nous n'aimons pas nous imaginer héritiers. Nous oublions volontiers que nous devons ce que nous devons aux autres, et notamment à ceux qui nous ont précédés. En d'autres termes, nous sommes saisis par la vanité un petit peu ridicule du « self-made man », nous affectons de croire que nous nous sommes construits nous-mêmes, tout seuls, et que donc nous ne devons rien à personne, si ce n'est justement à nous-mêmes. Par chance, notre invité de ce jour va nous aider à lutter contre ce vilain penchant. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio Jean Guilaine. Monsieur, bonjour tout d'abord.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean Guilaine, vous publiez aux éditions Odile Jacob vos mémoires d'un proto-historien sous-titré « La traversée des âges » et vous avez consacré votre vie à l'archéologie et plus précisément au néolithique. Pour reprendre le titre de l'un de vos livres, vous savez donc qu'il y avait la France avant la France et certainement l'humanité avant l'humanité, que nous sommes tous des maillons d'une longue chaîne. Donc, par profession même, vous allez nous aider à nous souvenir que, décidément, nous ne sommes pas des voyageurs sans bagages. Mais aussi par personnalité, allais-je dire, car votre livre, comme ce n'est pas nécessairement le cas de tous les mémoires, et spécialement des mémoires professionnelles, est traversé par un beau sentiment, et c'est un sentiment de gratitude à l'égard de toutes les personnes que vous avez pu croiser. Et d'ailleurs, le livre, et ce sera ma première question, le livre commence par un retour sur le passé, et en l'occurrence sur vos racines, dans le Midi, et sur vos parents. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce point de départ qui a précédé la naissance du Jean Guilaine que nous connaissons, celui que nous connaissons, qui est membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, professeur émérite au Collège de France, et reconnu entre tous par ses pairs.
Bien, je suis né à Carcassonne, donc une veille de Noël d'avant-guerre. Donc cela fait déjà un bout de temps. Mon père était... mes parents n'avaient pas fait d'études. Mais mon père avait le certificat d'études primaires. Et ma mère n'avait même pas le certificat d'études parce qu'elle avait un instituteur qui ne faisait pas passer le certificat d'études à ses élèves. Ce en quoi, d'ailleurs, il trahissait un peu la profession. Mais j'avais un père qui était passionné d'histoire. Alors, peut-être le décor de Carcassonne avec la cité y est-il pour quelque chose? De sorte que l'histoire qui intéressait mon père, ce n'était pas évidemment l'histoire économique et sociale, c'était l'histoire événementielle. Il était passionné d'histoire et tout au long de mon enfance, il m'a nourri d'une certaine façon de faits historiques qui lui paraissaient importants et il animait les veillées en quelque sorte par des lectures qui m'ont été évidemment profitables dès mon jeune âge. Et il y a une seconde personne qui m'a un peu initié à l'histoire. Vous voyez, il y a toujours des rencontres finalement. Hein. C'est un professeur de l'enseignement secondaire, Louis Signol, qui était professeur d'histoire donc, au lycée de Carcassonne, où j'étais élève. Et Louis Signol m'a donné la passion de l'histoire et m'a dit « Bon, ben écoute, si tu t'intéresses à l'histoire, continue là-dedans. » Donc, ensuite, je suis allé à la faculté, je me suis inscrit en histoire et c'est par l'histoire que j'ai découvert l'archéologie, d'une certaine façon. Et j'ai découvert l'archéologie par, au fond, par deux chemins, par deux canaux. D'une part, par un professeur, Louis-René Nougier, qui était professeur donc à la faculté des lettres de Toulouse, professeur de préhistoire, qui n'était pas un homme de terrain, c'était pas un chercheur, c'était un vulgarisateur essentiellement, un homme qui avait beaucoup de brio, beaucoup de talent de ce point de vue, et qui passionnait ses auditoires, d'une part. Mais d'autre part, je suis venu à l'archéologie par le terrain. C'est-à-dire que très tôt, En me promenant dans la campagne carcassonnaise, j'ai découvert des gisements préhistoriques. Je ramassais des silex. Je ne ramassais pas que des silex. J'allais aussi sur un oppidum qui était près de Carcassonne. Je ramassais des tessons de poterie romaine, enfin tout ça. Et puis chez moi, je classais tout ça dans des boîtes à chaussures. Je me souviens. Et notamment des silex. Et ces silex me posaient des questions. Bon, de quelle époque datent-ils? Qu'est-ce que la préhistoire? Mais la préhistoire, dans l'enseignement secondaire, elle est zappée d'une certaine façon. Et autrement dit, on en fait un peu un sixième et puis on l'oublie pratiquement totalement. Et dans l'enseignement supérieur, j'ai pu un peu me familiariser avec cette discipline. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était le terrain. C'était la pratique plus que la théorie. Et rapidement, vers 17, 18 ans, je suis entré en contact avec des gens qui étaient des archéologues languedociens qui faisaient du terrain. Par exemple, le docteur Arnal, qui était un amateur, mais un amateur très compétent, ou Odette et Jean Tafanel, qui étaient des proto-historiens. Et ces gens-là m'ont initié, en quelque sorte, à la, non seulement au contact avec le terrain, mais à la détermination, à la chronologie, etc. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer sur mon chemin un directeur de recherche au CNRS, Max Escalon de Fonton, qui a vu en moi la passion un peu qui bouillonnait et qui a été en quelque sorte la personne qui m'a ouvert la voie et qui m'a mis sur les rails pour entrer au CNRS.
Il faut que vous nous parliez de la façon dont vous rentrez au CNRS, car avec nos yeux d'aujourd'hui, ça va paraître parfaitement vraisemblable.
Ah oui, en fait, je vais vous amuser. J'ai appris, lorsque j'avais, je ne sais pas, moi, 19-20 ans, qu'il y avait effectivement un organisme dans lequel on pouvait faire carrière en tant qu'archéologue, qui était le CNRS. Alors moi, je m'intéressais au néolithique, et j'ai fait ma première publication, j'avais 19 ans. À 20 ans, je publie mon premier article dans le bulletin de la Société préhistorique française et je me suis dit, bon, ben, je vais essayer d'être chercheur au CNRS. Dans une naïveté provinciale absolument totale, n'est-ce pas? Et donc, à 21 ans, j'ai posé ma candidature au CNRS sans aucun appui, en écrivant, en envoyant des tirés à part de mes premières publications, dans l'innocence la plus totale, sans savoir que pour entrer au CNRS, il fallait être dans une équipe, dans un laboratoire, être appuyé par des patrons, bien entendu. Bien, mais cette expérience n'a pas été totalement inutile. Parce qu'à quelque temps de là, j'ai envoyé à l'abbé Breuil, qui était le grand maître, le pape de la préhistoire, la sommité de l'époque, des tirés à part. Et l'abbé Breuil m'a répondu en me disant « Cher monsieur, j'ai lu vos travaux, cela me paraît intéressant, vous avez l'air passionné. Je vous conseille de vous rapprocher de Max Escalon de Fonton, donc, qui est la personne qui, par la suite, devait me faire entrer au CNRS. Et c'est comme ça que je suis entré dans l'orbite d'un patron marseillais qui a vu l'intérêt de mon travail et qui m'a poussé, qui m'a fait entrer au CNRS. Je lui dois mon entrée au CNRS.
Alors, il faut préciser que à l'époque, vous le décrivez avec beaucoup de tact, mais en le laissant quand même entendre, hein, que d'une part, la préhistoire n'a pas tout à fait le statut qu'elle a aujourd'hui, et la proto-histoire non plus. Presque moins même encore.
Oui, alors ça c'est une histoire assez compliquée. Parce que le terme proto-histoire est très ambigu lui-même.
Oui, il faut peut-être commencer par définir le terme.
Oui, il est très ambigu. Pendant longtemps, on estimait que la proto-histoire, c'était l'étude des peuples qui n'avaient pas d'écriture, mais sur lesquels des peuples ayant l'écriture avaient écrit. C'est-à-dire, on avait un regard extérieur à la culture elle-même. Et donc, pour prendre le cas de la France, disons, en gros, les Gaulois sont proto-historiques parce qu'ils n'ont pas écrit pratiquement, non, sauf les quelques inscriptions gallo-grecques, mais les Romains ou les Grecs ont laissé des traces, et en particulier César avec la guerre des Gaules, bien entendu. Donc, c'est une vision, mais c'est une vision extérieure. Et donc, on peut un peu raconter ce qu'on veut sur la civilisation d'en face. On peut la monter en épingle comme on peut la déprécier, bien entendu.
La version du vainqueur.
Voilà, c'est toujours le même problème en histoire, finalement. C'est le vainqueur qui fait l'histoire, quelque part. Bien. Et puis, alors, progressivement, on a des collègues qui ont entendu la proto-histoire dans un sens plus large, c'est-à-dire, en gros, les âges des métaux, âge du bronze, âge du fer, en gros, deux millénaires pour la France. Mais depuis quelque temps, nous sommes plusieurs à penser qu'en fait, la proto-histoire démarre avec le néolithique. C'est-à-dire, à partir du moment où l'homme change radicalement sa façon de vivre, devient un paysan, s'installe dans des villages, et évidemment, sont liées à ces décisions-là toute une série de corollaires, par exemple, pour choisir de vivre ensemble dans un même lieu, il faut en quelque sorte bâtir des règles de vie communes, bien entendu. Il faut les observer. Ensuite se posent toujours des problèmes de conquête du pouvoir à l'intérieur des communautés, des problèmes d'inégalité sociale, rapidement. Donc, voyez, tout cela, ce sont des choses que nous allons retrouver tout au long des temps historiques. Et je pense que finalement, la vie dans un village néolithique ne devait pas être très différente de la vie dans un village du Moyen-Âge, vous voyez. Et donc, de ce point de vue, nous sommes dans un monde qui a coupé les ponts avec le monde des chasseurs-cueilleurs des temps paléolithiques. Et ces chasseurs-cueilleurs, c'est ça la vraie préhistoire, en quelque sorte. Mais dès que le moment où l'homme se sédentarise, vit dans des villages, etc., on est sur le substrat, sur le terreau des civilisations historiques. D'où le terme de proto-histoire. Alors cette proto-histoire, pour en revenir à votre question, en fait, pendant longtemps, elle a été le parent pauvre des recherches archéologiques. Parce que ou bien on s'intéressait aux civilisations classiques, le monde grec, le monde romain, et antérieurement les Égyptiens, les Mésopotamiens, etc. Ou bien, comme cette proto-histoire était globalement prise, n'est-ce pas, dans la préhistoire, elle était un peu considérée par les préhistoriens, c'est-à-dire par les paléolithiciens, comme une sorte d'épiphénomène, une fin de course en quelque sorte. Mais les origines de l'homme, l'art quaternaire, ça c'était des recherches nobles en quelque sorte. Le néolithique, bon, je vous dis, une fin de course. Une erreur, parce que le néolithique, au contraire, c'est un commencement. C'est le commencement de notre vie dans des villages, du monde paysan, qui a été pendant très longtemps le nôtre, avant que ne survienne la révolution industrielle.
Donc si je vous suis bien, on a tendance à faire une césure très nette, très longtemps en tout cas, on a utilisé comme césure très nette l'apparition et l'usage de l'écriture. Vous nous expliquez que c'est plutôt la naissance de l'agriculture.
Mais oui, mais oui. Et d'ailleurs, Braudel lui-même ne s'y était pas trompé. Il disait, en fait, il y a deux ruptures. Il y a l'agriculture et il y a l'écriture. Alors, sur l'agriculture, je le suis, évidemment, parce que le néolithique a changé complètement la face du monde, d'une certaine façon, en introduisant la domestication des plantes, la domestication des animaux, l'agriculture et l'élevage qui remplacent la chasse, la cueillette, etc. Je le suis moins sur la notion d'écriture, parce que l'écriture, c'est quelque chose d'ambigu. C'est un moyen de communication formidable, bien entendu, qui a révolutionné également, en son temps, la vie sur Terre. Mais pendant longtemps, l'agriculture n'a été l'apanage qu'un nombre très réduit d'acteurs. Et ces acteurs étaient souvent au service de dominants. On retrouve donc la question de tout à l'heure. Celui qui écrit l'histoire l'a fait, d'une certaine façon. Bon. Et c'est un peu contre ça que l'archéologie réagit. Parce que l'archéologie, elle, souvent l'archéologie qui n'a pas de texte, à sa façon écrit l'histoire. Mais parfois, lorsqu'il y a des textes, elle corrige précisément. Autrement dit, vous savez que l'archéologie, on l'a longtemps considérée comme une discipline auxiliaire de l'histoire. Non, ça n'est pas une discipline auxiliaire. C'est une discipline historique et anthropologique, mais elle a ses propres codes, elle a sa façon de travailler. Et bien souvent, l'archéologie corrige l'histoire écrite, faites par les vainqueurs, justement. Prenons hélas le cas des massacres de Bosnie, etc. Bon, alors, il y avait évidemment les vainqueurs qui avaient écrit leur histoire, mais actuellement, il y a des archéologues qui font des fouilles dans les charniers de Srebrenica et d'autres, et qui montrent en réalité ce qu'a été la réalité, au fond. Mmh. On peut prendre notre
exemple. C'est l'archéologie presque médico-légale.
Ça, c'est l'archéologie médico-légale, mmh. qui est une branche très actuelle de l'archéologie un peu particulière.
Mais on peut étendre cette démarche dans l'esprit aux fouilles sur les temps les plus reculés.
Mais évidemment, mmh. par exemple, pour cette correction de l'histoire, on peut prendre le cas de l'Australie, où quand les Britanniques sont installés en Australie, ils ont dit, bon, c'est notre pays, nous l'avons conquis, il est vierge, il n'y a personne. Et non, l'archéologie a bien montré qu'il y avait des populations, les aborigènes, qui étaient là depuis au moins 50 000 ans. Donc vous voyez, l'archéologie, non seulement n'est pas une discipline auxiliaire de l'histoire, mais parfois, elle se permet de corriger l'histoire.
Oui, parce qu'au départ, ce qu'on nous expliquait, c'est que l'archéologue est un peu considéré comme celui qui va apporter quelques pièces au pied de l'historien, qui ensuite va se charger de les interpréter. Je caricature à
oui,
dessin.
Oui, bien hein. entendu, bien entendu. Oui. Mais je crois qu'en fait, ça n'est pas... Évidemment, ça a été vu comme ça pendant très longtemps. Mais en réalité, l'archéologie ne sert pas précisément qu'à apporter de la documentation, des faits, des connaissances. L'archéologie doit servir à écrire l'histoire, à penser l'histoire éventuellement.
Alors vous le dites à plusieurs reprises, il ne faut pas l'enfermer dans sa dimension, même si vous êtes, on a dit que vous étiez un activiste du terrain,
oui,
un activiste
oui.
du terrain, mais vous êtes attaché aussi à lui agréger d'autres disciplines et à lui donner une autre ampleur. Avec ce terme qui vous fait sourire par moments, j'ai l'impression de pluridisciplinarité, oui. mais vous y avez agrégé quand même d'autres compétences
oui. Alors
multiples.
Ça, oui, tout à fait. Et ça, c'est un peu lié à ma propre trajectoire. Parce qu'en fait, moi, j'ai passé une partie de mon enfance à la campagne. C'était donc avant la guerre et pendant la guerre, et donc j'ai vu une vie campagnarde, une vie rurale, où tout était manuel. Le travail des céréales, de la vigne, tout était manuel à l'époque. Aucune mécanisation. La mécanisation, les premiers tracteurs sont arrivés vers 1950, par là. Oui. Et donc, cette vie, j'ai essayé d'en retrouver les origines à travers le néolithique. Mais lorsque, en archéologue, j'ai vu ce qu'était l'étude du néolithique, c'est-à-dire qu'au début, on classait des lames de silex, des pointes de flèches, des haches polies, de la céramique. Moi-même, j'étais un spécialiste de l'étude de la céramique, des objets de parure trouvés dans les tombes de cette époque, etc. Tout ça était très loin de cette vie rurale que j'essayais de retrouver dans ma tête. Et donc, j'ai pensé qu'en fait, on ne pouvait réellement aborder l'étude du néolithique, c'est-à-dire l'étude de la transformation du milieu naturel par l'homme, sans le concours des naturalistes. Et donc, je me suis très vite entouré, évidemment, de palynologues, c'est-à-dire de gens qui étudient les pollens et qui restituent les paysages, d'anthracologues, des gens qui étudient les charbons de bois fossiles, de carpologues, des gens qui étudient les semences, les céréales, les graines cultivées, de faunistes, bien entendu, mais pas simplement de faunistes, ça, c'était déjà à l'ordre du jour. Des gens qui étudient la grande faune, mais aussi des gens qui étudient les microfaunes, les oiseaux, les rongeurs. Parce que ces petites bestioles, si je puis dire, nous en apprennent beaucoup sur les transformations écologiques du milieu. Et donc, c'est une façon, à travers ces bribes absolument minuscules, c'est une façon de retrouver l'histoire du paysage transformée par l'homme.
Ce qui est évidemment absolument nécessaire, puisque c'est précisément ce qui s'est passé à ce moment-là.
Évidemment.
Vous parlez de parce que cette révolution du néolithique, c'est pas seulement l'agriculture, c'est un changement du rapport à la nature de façon beaucoup plus profonde.
C'est un changement. C'était pas, ils se posaient pas des questions d'ordre écologique. Les néolithiques, ils avaient besoin d'avoir des surfaces cultivées. Ils avaient besoin d'avoir des terrains de parcours pour leurs animaux. Et donc carrément, ils brûlaient la forêt, ils modifiaient, ils construisaient. Leur décor, leur paysage. Au fond, à partir du néolithique, le paysage qui, pendant très longtemps, a évolué simplement sous l'effet de contraintes naturelles, climatiques, etc., à partir du néolithique, le paysage est une création sociale.
À l'image d'aujourd'hui.
À l'image d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, hélas, avec des moyens que possède l'homme pour transformer la nature, qui sont évidemment puissance X. Quoi.
Bon, en revanche, les moyens qui ont changé aussi, ce sont ceux à votre disposition pour pour fouiller le sol, le lire, l'interpréter.
Oui.
Vous,
oui,
avez,
oui.
Alors, vous avez vécu quelques belles révolutions là aussi.
Oui, oui. Alors il y a eu des belles révolutions, qui sont des révolutions plus globalement archéologiques que celles-là. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé, nous n'avions pas de gros moyens financiers. Et donc, ne pouvant faire du quantitatif, on faisait surtout du qualitatif. C'est-à-dire qu'on fouillait dans des abris, on fouillait dans des grottes, on faisait du vertical, si je puis dire, on faisait de la stratigraphie. Et donc, on voyait au cours du temps comment évoluer en mettant dans le jeu les disciplines de l'environnement, voyant que, par exemple, au cours du néolithique ancien, on était dans une forêt épaisse que l'homme commençait de brûler, il crée quelques clairières, etc. Puis on voit ensuite qu'au fil du néolithique, eh bien, les surfaces cultivées deviennent plus grandes, la forêt régresse, le chêne dans le midi, le chêne pubescent cède sa place au chêne vert. Puis, à des périodes plus récentes du néolithique, on voit que le paysage est de plus en plus ouvert, que accaparé la garrigue, etc. Donc, vous voyez, il y a toute une série d'étapes qui ont été d'ordre environnemental et qui ont été perçues à travers nos premières fouilles. Et en même temps, c'était une époque, dans les années 50-60 du siècle dernier, où on ne connaissait pas bien l'évolution chronologique des cultures néolithiques. Parce que chaque fois que le néolithique avance dans le temps, les cultures se transforment. Et il fallait donc mettre en musique toutes ces choses-là. Voilà un des premiers états, en quelque sorte, de l'archéologie de ces époques-là. Mais chemin faisant, petit à petit, les crédits ont augmenté et on est passé à des fouilles extensives. C'est-à-dire qu'on a un peu laissé tomber les grottes et les abris et on a commencé de faire du plein air et de fouiller avec d'autres moyens, bien entendu, décaper souvent plusieurs hectares, notamment lors des fouilles préventives. Parce qu'entre-temps, évidemment, les fouilles préventives ont gagné leur droit de cité, d'une certaine façon, et ont pu intervenir sur le terrain. Donc, on a fouillé de grands espaces et au lieu de fouiller les grottes et les abris, qui étaient des espèces de repères temporaires de bergers, etc., on a fouillé les sites de plein air, les sites des agriculteurs. Donc vous voyez, il y a une mutation, mais qui n'est pas propre cette fois au néolithique, qui concerne l'archéologie dans son ensemble.
Et puis les moyens techniques qui ont changé aussi.
Ah ben oui, les moyens techniques, les études de laboratoire qui se sont multipliées. L'archéologie est devenue une discipline d'interface entre les sciences de l'homme et les sciences de la nature.
Est-ce que vous pouvez nous parler du métier finalement? Parce qu'il y a sûrement des jeunes auditeurs qui nous écoutent, qui peuvent être tentés par la carrière. Comment s'organise le travail? Parce que bon, on a tous l'image d'Épinal, de l'archéologue qui est sur le terrain, qui fouille, qui nettoie avec un petit pinceau, qui décape, qui crée des typologies en classant des objets. Imagine un monde, c'est plus compliqué que ça. Hein.
Ah, c'est plus compliqué que ça parce que pour en rester à la fouille, d'abord il faut la préparer, la fouille. C'est-à-dire que bon, vous avez rédigé des rapports scientifiques montrant tout l'intérêt du site que vous avez fouillé, on vous a accordé des autorisations, quelques crédits, il faut aller sur le terrain, vous avez une préparation de la fouille. La fouille se fait de plus en plus en équipe, et bien entendu, mais il y a un responsable quand même, il y a un chef d'orchestre dans l'histoire. Et donc, c'est sur ces épaules que repose en réalité la totalité du travail. Sur le terrain ensuite, c'est pas facile parce que moi sur le terrain à la fois je gérais la fouille, je dirigeais la fouille, je prenais des notes, mais en même temps il fallait que je m'occupe de nourrir la troupe si je puis dire.
Bon, l'intendance, oui.
L'intendance ne suit pas forcément comme disait De Gaulle. Oui. Et donc bon, et puis ensuite alors le soir il faut revérifier les notes, il faut les classer. Puis arrive la fin de la fouille, il faut démonter le chantier, autant difficile et autant pénible que le temps qui a constitué et l'énergie qui a constitué à le monter. Ensuite, une fois que tout est terminé, embarquer les documents, les amener au dépôt de fouille, bon, etc. Ou au dépôt lorsqu'on fouille à l'étranger ou dans quelques musées. Ensuite, rapport à rédiger. Et puis, si vous voulez recommencer l'an prochain, à nouveau, nouvelle, en quelque sorte, nouvelle demande à expliciter, etc. Bon. Donc, et lorsque vous avez comme ça 3 ou 4 chantiers par an, parce que ça m'arrive, ça m'est arrivé, à la fin, non, mais au début de ma carrière, oui, vous avez votre temps qui est complètement dévoré. Je ne parle pas du temps ensuite passé à nettoyer les objets, à les marquer, à les donner à divers laboratoires, voilà, à faire ce va-et-vient, parce que le but final, en définitive, c'est la monographie. Au bout de X campagnes de fouilles, vous décidez d'arrêter. Vous arrêtez et donc vous devez rendre à la collectivité le travail, n'est-ce pas, que vous avez pu faire grâce à l'argent du contribuable. Et donc, en fait, vous devez rédiger la monographie. Mais la monographie, vous avez 20-25 spécialistes avec vous qui sont des gens de disciplines différentes, qui doivent vous dire ce qu'ils ont vu et ce qu'ils pensent. Mais souvent, ça n'est pas facile. Parce que vous vous retrouvez devant des gens qui ont des résultats complètement contradictoires. Et donc, il faut tâcher d'expliquer ces contradictions. Et en même temps, il ne faut pas essayer de louvoyer, il faut être sincère. Donc, comment arriver à arbitrer ces choses-là ? Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Ce qui explique que souvent, les monographies ne paraissent jamais. Autrement dit, les archéologues se contentent de faire quelques articles où ils donnent les faits les plus saillants de leurs fouilles, mais le gros travail de publication plus ou moins exhaustif, n'est-ce pas, de la fouille avec toute l'équipe, je serais curieux de savoir combien de sites sont fouillés, combien de monographies ont paru par rapport aux fouilles qui ont été conduites. Je suis assez sceptique là-dessus, assez pessimiste.
Je laisse un silence à dessein. Une autre évolution que vous avez vécue, c'est celle de la mondialisation. D'une part, je pense de l'étude de la mondialisation précoce au néolithique, mais aussi la mondialisation du monde de la recherche. Alors là, je dois dire, c'est assez sidérant. D'une part, l'extension de l'ère des recherches, puisque ça vous a mené jusqu'aux antipodes. C'est-à-dire que j'ai découvert avec beaucoup de surprises, parce que, évidemment, comme tous les béotiens, quand on me dit mégalithe, je pense Karnak. Ensuite, bon, d'accord, je peux descendre comme ça jusqu'en Galice, mais au Japon, j'ignorais.
Hein. Ah oui, ben vous savez, il y a des mégalithes dans plusieurs régions du monde. Curieusement, d'ailleurs, à la fois dans l'extrême Occident, et puis dans l'extrême-orient, en définitive, c'est-à-dire vous avez des mégalithes en Corée, au Japon, en Indonésie, en Inde, vous voyez. Mais ce mégalithisme n'est pas un tout, bien entendu. Il varie dans le temps comme il varie dans l'espace. Autrement dit, vous avez en Occident, en Bretagne par exemple, ou sur toute la façade atlantique, des monuments qui remontent au 5e millénaire de notre ère, des civilisations qui sont des civilisations néolithiques qui les ont construits. Et puis vous avez, par exemple, dans notre région du monde, des mégalithes qui datent de ces derniers siècles. Donc il est des cultures qui passent à un moment donné de leur évolution par le stade du mégalithisme, c'est-à-dire qu'ils décident de lever des pierres ou de construire de grands tombeaux de pierres pour certaines des leurs, et des civilisations qui ne passent pas du tout par le mégalithisme. En Europe centrale, il n'y a pas de mégalithes, par exemple, il n'y en a jamais eu. Bon, peut-être y en aura-t-il un jour, mais vous voyez. Bon. Alors, les problèmes de la mondialisation, ça, c'est quelque chose de neuf. Moi, vous savez, à l'époque, j'achetais des ouvrages ou j'allais consulter en bibliothèque. On faisait des tirés à part de nos articles, c'est-à-dire des extraits, et on échangeait comme ça. Tout ça n'existe plus maintenant avec les mails, avec les PDF. Et puis, la recherche s'est mondialisée. Au fond, elle a suivi les problèmes globaux de la société. Elle s'est mondialisée et de plus en plus, les recherches sont des recherches internationales qui mettent en jeu des équipes de divers pays. Alors, c'est très bien pour la recherche, cette sorte d'émulation en même temps que ça crée. Et en même temps, curieusement, ensuite, avec Shanghai, par exemple, ce sont toujours des universités. Autrement dit, le côté national ressort. Donc, il y a une espèce de contradiction, là, qui est un peu bizarre, quoi.
Alors, dans d'autres domaines, les chercheurs me disaient, c'est formidable, parce que dans un premier temps, on confronte des points de vue et on s'enrichit énormément. Et dans un second temps, en fait, il y a une extension des modes ou des tendances au niveau planétaire, tant et si bien qu'on perd en diversité. Est-ce que vous avez ressenti la même chose ou pas ? Une sorte d'alignement, en
fait. Oui, 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 une banalisation.
Une banalisation d'alignement et aussi des modes qui font que les crédits finissent par être orientés sur des mêmes thématiques au niveau mondial, tant et si bien qu'on y perdrait en diversité.
Oui, oui, oui. Et puis, en même temps, on le voit ça maintenant, si vous voulez, au niveau de la génétique qui a de plus en plus, qui envahit le monde de l'archéologie, parce que pendant très longtemps, les archéologues se sont posés des questions sur les peuplements. Cette culture est-elle autochtone? Vient-elle d'ailleurs? Est-ce que les gens se sont déplacés, etc. Alors vous savez, pendant longtemps, l'archéologie a un peu réagi comme en histoire. On expliquait les changements culturels par toute une série d'invasions, n'est-ce pas? On allait chercher toujours à l'extérieur ce qu'on n'expliquait pas au plan local. Puis, il y a eu un changement, en quelque sorte, de balancier. Et on a presque tout expliqué par l'autochtonie. Peut-être l'influence du structuralisme en disant que chaque culture, en quelque sorte, se construit par une sorte de dynamique interne. Et donc, l'autochtonie est devenue le maître mot. Mais maintenant, avec la génétique, on voit qu'il y a des gènes qui circulent beaucoup. Depuis toujours, pratiquement. Et en particulier au néolithique. Et donc, maintenant, les généticiens nous proposent donc des modèles qui, eux, font la part belle, évidemment, à des invasions permanentes et qui secouent un peu les archéologues, si je puis dire, parce que les archéologues, ils n'ont pas toujours la même vision. Ils ont des visions plus nuancées, plus complexes, peut-être. Et on a un peu tendance, beaucoup d'archéologues ont tendance maintenant de se mettre à genoux, si je puis dire, devant les généticiens et de penser que c'est les généticiens qui leur montrent la voie. Alors qu'en réalité, les choses ne sont pas aussi simples, n'est-ce pas? D'autant qu'en génétique, on ne sait jamais si tel gène que l'on voit à un endroit vient d'y être introduit ou comment ce gène est arrivé là à travers le temps. Donc, ces problèmes sont assez compliqués et je crois qu'il faut se méfier d'une trop grande simplification des choses. Ce que les généticiens ont tendance à faire, c'est-à-dire ils ont tendance à prendre deux ou trois auteurs qui vont dans leur sens, et puis alors ils orchestrent en quelque sorte ces théories d'une façon mondiale.
Alors précisément, puisqu'on parlait de la façon dont des populations sont déplacées, ou des savoirs, ou des produits, cette révolution du néolithique, cette révolution agraire, où en est-on de l'état des connaissances? Puisqu'on nous dit souvent, ça vient de Mésopotamie. Bon, d'accord, et ensuite, ça s'étend, ou...
Non, alors,
où en est l'état des savoirs sur cette extension incroyable?
Voilà. Alors, je vais vous dire, en fait, d'abord, il n'y a pas une révolution néolithique, il y a des révolutions néolithiques dans l'espace. Celle qui nous intéresse, nous, Européens, elle a pris naissance, non pas en Mésopotamie, au Proche-Orient, c'est-à-dire, en fait, dans la zone levantine, disons aujourd'hui, Jordanie, Israël, Syrie, Liban, un bout d'Anatolie, un bout d'Irak, etc. Bon, voilà. Mais vous avez... Alors ça, c'est pour le blé et l'orge, essentiellement, et les légumineuses. Mais vous avez une révolution néolithique qui s'est produite également en Chine, autour du millet et du riz. Vous avez une révolution néolithique qui s'est produite au Mexique autour du maïs, et peut-être dans les Andes. Vous voyez donc, en réalité, il y a plusieurs berceaux du néolithique qui ne sont pas étroitement contemporains aussi dans le temps. Alors, pour revenir à...
La nôtre.
La nôtre, celle du Proche-Orient. Alors, celle du Proche-Orient, c'est néo-Proche-Orient. Ça a fermenté, si je puis dire là, parce que ce sont finalement des chasseurs-cueilleurs qui sont devenus des paysans par transformation sur place. Mais une fois qu'ils ont acquis ce stade des paysans, lorsqu'ils ont maîtrisé les techniques de l'agriculture et de l'élevage, à partir de là, ils ont commencé progressivement de diffuser. Alors, vers l'Europe en particulier, parce qu'ils ont diffusé vers l'Europe, mais aussi vers l'Afrique du Nord, ils ont diffusé vers l'Inde, ils ont diffusé vers l'Asie centrale. Vous voyez ? Donc, en ce qui concerne l'Europe, le passage s'est fait par le pont anatolien, par l'Anatolie, la Turquie actuelle, et ensuite par les Balkans. Et il s'est fait aussi parallèlement par la Méditerranée. Donc vous avez une espèce de tenaille, en quelque sorte, qui s'est répartie à travers l'Europe centrale, à travers la Méditerranée, pour se retrouver en France notamment. Et c'est de cette façon que progressivement, au fil des générations, hein, ne faut pas s'imaginer des migrants qui partent là, etc. Non, c'est une...
Mais c'est une histoire plus lente que celle d'aujourd'hui.
Mais ça n'a rien à voir avec l'histoire d'aujourd'hui. Autrement dit, ce sont des, au fil des générations, des gens qui ont grignoté des bouts de terrain petit à petit et qui ont acculturé les populations locales qui existaient, qui étaient les dernières populations de chasseurs-cueilleurs, et qui petit à petit ont fait ainsi la conquête de notre continent.
Le terme de conquête est celui qui est approprié ou ça se fait par copie, des allées, des retours? Vous expliquez que c'est une histoire très...
C'est une histoire très complexe en réalité. On a tendance, nous, à faire des flèches. Mais ça, c'est valable globalement. Dans la réalité, c'est toute une série de va-et-vient, d'installations pionnières, puis peut-être qu'on va en retraite aussi, puis on avance, tout ça est très lent. Ce sont des mécanismes en même temps très complexes. Et notamment, des choses qu'on n'arrive pas toujours à saisir, comment, petit à petit, ont pu être absorbées les populations locales qui existaient, les populations de chasseurs-cueilleurs. Alors maintenant, on a l'ADN, on sait par exemple, moi, par exemple, j'avais contribué à un travail qui se passait en Catalogne, sur un site du néolithique ancien, où on s'était aperçu que les gènes d'origine masculine, en quelque sorte, pour le néolithique ancien, étaient des gènes extérieurs, dont certains se retrouvaient évidemment en Méditerranée orientale. Mais que les gènes mitochondriaux, les gènes féminins, étaient plutôt des gènes qui étaient déjà connus dans les populations antérieures. Donc on peut se dire que les femmes indigènes ont peut-être collaboré à cette espèce de symbiose qui s'est produite entre des gènes externes et des gènes locaux.
C'est Gyptis et Protis.
Voilà. Bien avant.
Alors, précisément, cette affaire de gènes masculins qui seraient d'une espèce et de gènes féminins d'une autre, ça nous amène à des questions plus contemporaines sur lesquelles vous avez travaillé. D'une part, le rapport à la violence, où vous avez eu un apport, semble-t-il, décisif avec l'un de vos collaborateurs, puisque ça tendait à remettre en cause la vision un peu rousseauiste qu'on pouvait avoir monde pré-néolithique, justement.
Oui. En fait, lorsqu'avec Jean Zamine, nous avons abordé cette question, nous n'avions pas d'idée préconçue. Hein. Ce qui nous intéressait, c'était de retrouver les marques de violence à travers la préhistoire. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, les chasseurs-cueilleurs, vous savez, dans la mythologie, mais aussi dans l'archéologie, hein, le paléolithique, c'est un peu le paradis terrestre, c'est-à-dire l'homme prélève par la chasse, la pêche, la cueillette sur la nature ce dont il a besoin pour se nourrir. Donc la nature est généreuse, donc c'est une forme d'âge d'or. Et on pensait qu'en même temps, la société, qui démographiquement était quand même relativement peu faible, les gens ne pouvaient pas se battre entre eux parce que les raisons n'existaient pas au fond de conflit. Et puis on s'est aperçu, hélas, je dirais, que les chasseurs-cueilleurs se battaient et que la violence existait pratiquement depuis toujours. Et donc, ça nous a refroidi un petit peu, mais on a dit, parce que pendant longtemps, on s'est dit, c'est le néolithique qui crée la violence, parce que le néolithique, avec l'agriculture, avec l'élevage, en quelque sorte, permet le surplus, permet des stocks,
la propriété, le territoire,
et donc, on va essayer de voler les femmes du voisin, de lui piquer ses troupeaux, etc. Vous voyez, donc, le néolithique était chargé, c'était le temps de la faute. Pour voir ça dans le cadre religieux. Ça n'est pas la faute. Et puis, ça ne tient pas au niveau de l'archéologie, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les temps du paléolithique étaient déjà des temps où il y avait de la violence. On a cité le cas du Djebel Saaba, cette fouille faite par les Américains au Soudan, où vers 12 000 déjà avant, on a vraiment des traces, une espèce de tuerie de masse. Et depuis notre ouvrage, on a trouvé au Kenya aussi des chasseurs-cueilleurs, les restes d'un massacre de chasseurs-cueilleurs. Donc vous voyez, la violence est de tous les temps. Alors, le mot guerre, souvent, on l'emploie évidemment dans un sens où deux États se tapent dessus. Mais ramener à cette époque-là, deux communautés qui se battent, c'est déjà la guerre.
Surtout si ça se termine par un
meurtre de masse. Ça se termine mal, voilà.
Ce qu'on peut en déduire, c'est que donc la violence n'a pas toujours pour objet la possession et qu'il y a bien d'autres motifs.
Absolument. Oui, parce que dire que le néolithique, c'est le début de la violence, comme on peut le trouver encore écrit, etc., c'est réduire en quelque sorte les motifs de violence à des causes matérialistes, à des causes économiques. Or, il y a un tas de motifs pour lesquels les gens se battent, des raisons psychologiques, des raisons de contraintes écologiques, des raisons démographiques, des raisons, tout simplement la volonté d'en découdre pour affirmer son statut de vainqueur. L'homme est un être complexe.
Hein. Alors justement, dans ces motifs symboliques de guerre, mais aussi d'organisation de société, vos recherches donnent une image... Des hypothèses, en tout cas, vous insistez toujours pour dire que ce sont des hypothèses.
Ah ben oui,
parce que
ben oui.
Bien évidemment. On...
Ah oui, mais vous savez, l'archéologie, je crois que moi, je crois à ma discipline, mais en même temps, je connais ses limites. Vous avez deux niveaux toujours en archéologie. Vous avez le niveau de la découverte, de l'observation, de la description du fait lui-même. Bon, et puis vous avez l'interprétation. Mais l'interprétation reste toujours une hypothèse. Il faut rester modeste. Parce que si, systématiquement, vous pensez que votre interprétation est une vérité, alors là, en quelque sorte, vous dévoyez votre discipline.
Alors on peut peut-être donner un exemple, celui de la déesse mère. C'est intéressant.
Alors ça, c'est plus compliqué, l'histoire de la déesse mère. Parce que, au fond, c'est une histoire qui remonte au XIXe siècle. Au XIXe siècle, vous savez, il y avait un juriste helvète qui s'appelait Bachofen, qui avait essayé, c'était l'époque où les grands évolutionnistes de l'époque, les anthropologues évolutionnistes, essayaient de dépeindre une histoire de l'humanité depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Et Bachofen pensait que les femmes avaient eu un pouvoir important au début de l'humanité, parce qu'elle donnait la vie, parce que l'homme était un chasseur, était mobile, la femme c'était
la stabilité,
en quelque sorte. Bon. Et puis, alors ça s'est passé, ça a été adopté par les anthropologues, et puis l'idée que la femme, et notamment la femme néolithique, qui, au fond, la femme c'est la terre. La terre donne la nourriture, n'est-ce pas ? La femme donne la vie. Donc, fertilité, fécondité se renvoie la balle, d'une certaine façon.
Oui, dans un univers symbolique, ça se comprend très bien.
Voilà. Donc, on a dit finalement toutes ces figurines, parce que parler des religions néolithiques, c'est très difficile. À la limite, nous pouvons voir des traces de rituels. Bon. Mais les dogmes, les croyances elles-mêmes, c'est une autre paire de manches, vous comprenez, et c'est très difficile à mettre en place. Donc, qu'est-ce que nous avions ? Nous avions essentiellement des figurines. Ces figurines, bon, qu'est-ce qu'elles signifient ? Alors, pendant longtemps, on a dit, ben, ce sont, comme souvent elles étaient en plus féminines, surtout au début du néolithique, on a dit, c'est justement, voilà ce qui nous manque pour la religion. Le volet religieux nous manque, mais nous avons là la démonstration que l'homme adorait une divinité, etc., et que cette divinité, c'était la terre-mère, etc. Mais il se trouve que ces figurines, elles ne sont presque jamais enceintes, donc on devrait les représenter. Elles sont souvent adipeuses, ça j'en conviens, mais vous en avez qui sont très maigres, très plates, en quelque sorte. On devrait les retrouver dans des temples, c'est-à-dire des endroits où on pourrait leur rendre, or en réalité, nous les trouvons cassées, jetées à la poubelle, dans des rebuts, etc. Comme si elles avaient fonctionné, et puis à partir du moment où elles ne fonctionnent plus, où elles ne sont plus utiles, on s'en débarrasse. On aurait pu, si ça avait été de véritables divinités, les tailler dans des roches nobles, parce que les néolithiques connaissaient la valeur, la qualité des roches. Ils ont fabriqué des haches polies tout à fait symboliques, que l'on trouve par exemple dans les tumuli de Karnak, qui sont des haches qui ont demandé des heures et peut-être des mois de travail, etc. Donc ils auraient fait dans ces roches nobles des représentations de leur divinité. Non, ils l'ont fait en argile, c'est-à-dire le matériau le plus banal qui soit. À cette époque-là. Donc vous voyez...
On n'est pas sûr que ce soit des objets cultuels.
On ne sait pas ce que sont les objets culturels. En plus, il n'y a pas que les femmes, il y a des hommes, et puis il y a les animaux. Il faut admettre aussi que les animaux faisaient partie du panthéon de l'époque. Donc, je crois que cette histoire ne tient pas, cette histoire de déesse mère. Je crois que c'est un mythe qui a parcouru la discipline, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de culte de fécondité ou de fertilité, bien entendu. C'est-à-dire la pluie, le soleil, tout ça qui font pousser les plantes, tout ça, évidemment, devait être honoré, probablement. Mais je crois qu'en réalité, les religions néolithiques sont plutôt des religions d'ancêtres. C'est-à-dire des religions, comment vous dire, le fait que le groupe a une histoire. Et cette histoire, elle est légitimée par ceux qui vous ont précédé, c'est-à-dire par les ancêtres. Et donc, on rend grâce aux ancêtres, il y a d'abord ces ascendants, ceux qu'on a connus, mais il y a aussi éventuellement des ancêtres mythiques, qui n'ont peut-être jamais existé, mais auxquels on attribue des faits glorieux, etc. Et je crois que le mégalithisme, par exemple, c'est-à-dire enterrer les ascendants dans un caveau de pierre destiné à l'éternité, pas, alors qu'on construira les maisons en bois, c'est-à-dire en matériaux périssables. C'est une façon de rendre grâce à cette généalogie ancestrale qui a fait l'histoire du groupe.
Écoutez, ça peut sembler archaïque, mais si on s'en réfère au début de notre conversation, finalement, ça a peut-être un petit peu de sens. Ces gens avaient peut-être même beaucoup de bon sens de rendre un culte à leurs prédécesseurs, non ?
Mais tout à fait, tout à fait. À leurs prédécesseurs ou à ceux que vous avez rencontrés dans la vie.
Alors en revanche, ce que vous, c'est là peut-être la limite de l'exercice, c'est que, semble-t-il, dans de nombreux endroits, mais c'est peut-être là encore une hypothèse, ce culte des ancêtres est aussi une façon de se distinguer des autres et donne quelques signes. Je crois que notamment à travers l'étude des sépultures, on se rend compte que c'est aussi une société extrêmement hiérarchisée.
Oui, hiérarchisée. Alors, évidemment, le culte des ancêtres, en même temps, les ancêtres vous donnent une identité. Et cette identité tribale, elle peut apparaître sous forme de parures, de signes divers, de manière à ce que vous vous reconnaissiez comme membre de telle communauté et pas de telle autre.
Et quelle est... telle classe sociale ou de...
Oui, alors la hiérarchie sociale, oui, la hiérarchie sociale, elle existe dès le néolithique. Vous savez, dès le néolithique ancien, on voit des sujets qui sont bien dotés, des sujets, des inhumés, des défunts qui sont bien dotés, et d'autres qui le sont très peu. Donc, il y a des différences de statut. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, dans le néolithique, disons qu'en Europe occidentale, le néolithique a duré 3 à 4 millénaires, on s'aperçoit qu'il y a des sujets qui sont vraiment dotés de pièces, qui sont des pièces d'apparat, des pièces de prestige. Et il est évident que... Il y avait dans ces sociétés des dominants et des dominés, ça ne fait pas l'ombre d'un doute.
Ils sont assez proches de nous finalement, non ?
Vous savez, moi je dis que nous sommes les enfants du néolithique quelque part.
Alors nous avons dit que nous avions, c'est maintenant établi, nous avons une identité héritée de ces lointains ancêtres du néolithique, pour le meilleur comme pour le pire.
Et même des gènes de Néandertal, vous le savez, 2%, quoi.
Oui, j'ai lu ça récemment. Il a dit que j'étais sapiens, mais finalement, je comprends pourquoi parfois je m'énerve un peu. Mais au-delà, nous sommes aussi des êtres de projet, des gens qui construisons, qui édifions, qui poursuivons cette histoire. Dans cette longue histoire de l'archéologie, votre livre parle de l'histoire de l'humanité, mais aussi de l'histoire de l'archéologie. Quels sont à votre sens, les prochaines étapes, les énigmes à résoudre, les inflexions qui pourraient poursuivre l'élan qui vous habite?
Vous savez, moi, l'élan qui m'habite, en fait, j'ai essayé de le faire passer à travers tous ceux qui m'ont suivi, c'est-à-dire mes élèves, dont certaines sont déjà à la retraite. Donc, vous voyez, c'est vraiment une longue histoire. On est dans la longue durée, là. Et puis, les plus jeunes, moi, d'ailleurs, je travaille, je suis dans des programmes de recherche qui sont pilotés par des jeunes. Ça m'empêche un peu de vieillir. Je garde toujours la main. Et puis, je les fais un peu profiter de mon expérience, maintenant, qui remonte à quelques décennies.
C'est la transmission.
Voilà.
Pour nos auditeurs, quel conseil donneriez-vous à des jeunes qui nous écoutent et qui seraient tentés par cette carrière et de s'inscrire dans tous ces sillons qui ont été ouverts ? Quelques qualités, quelques impulsions à suivre.
Ben écoutez, moi je souhaite que d'abord que le public en général s'intéresse de plus en plus à l'archéologie. Ça, je pense que c'est en voie, on est en train de gagner la partie de ce côté-là. Alors ensuite, sur les carrières elles-mêmes, il faut être un peu prudent quand même, parce que beaucoup de gens s'imaginent que, d'abord, c'est un métier facile, c'est un métier d'aventurier, un peu, etc. Non, c'est un métier difficile. C'est un métier difficile. Et il ne faut pas trop rêver, je crois, à l'idée qu'on va trouver des choses miraculeuses, extraordinaires. Je pense qu'en fait, les progrès en archéologie viennent justement de l'accumulation insensible de petits riens qui finalement finissent par nous donner une vision totalement différente de celle que nous avions au départ. Donc, en réalité, aimons l'archéologie, mais ne rêvons pas trop avec l'archéologie.
Merci beaucoup. Alors, continuer dans l'ordre des conseils quand même. J'invite nos auditeurs à poursuivre cette réflexion et à goûter à toute la passion qui vous anime en se plongeant dans les mémoires d'un proto-historien sous-titré La traversée des âges aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup, Jean-Guilaine.
Merci à vous.